Le réveil culturel. Toufik Hakem.
Bonjour tout le monde et bienvenue dans le réveil culturel. Et bonne semaine à vous qui nous écoutez, soit tôt le matin à la radio de 6h à 6h30, soit en différé en passant par l'écoute en ligne ou l'abonnement au podcast de l'émission disponible entre autres sur franceculture.fr. L'émission de ce matin a été préparée avec Anne-Catherine Gallet, réalisée comme d'habitude par Vincent Abouchard, avec ce matin la prise de son Alain Joubert. Et tous les lundis, dans le réveil culturel, on parle de l'actualité des livres. Aujourd'hui, on va parler du dernier roman de Valentine Gobi, Murène, édité par Actes Sud. L'écrivaine est notre invitée ce matin.
Le réveil culturel. Lundi, livre.
Et c'est un drame poignant, un beau roman sur la résilience. Murène de Valentine Gobi raconte l'histoire de François Sandre qui va être à l'âge de 22 ans, la fleur de l'âge, dirait ma grand-mère, carbonisé et retrouvé quasi mort. Un chirurgien va le sauver en l'amputant de ses deux bras et pour ne pas sombrer, François Sandre va apprendre à nager sur son dos, comme une murène. Bonjour Valentine Gobi. Donc bonjour. Déjà, on donne l'explication du titre.
Oui, alors, partiellement. La murène est un animal qui paraît souvent effrayant à ceux qui la regardent, surtout parce qu'il se trouve qu'elle a des dents acérées, une mâchoire très impressionnante. En réalité, si vous avez déjà visité un aquarium, la murène est un animal assez timide qui se réfugie dans les anfractuosités de la roche, qui a peur de se montrer, comme si elle était consciente de la peur qu'elle suscite, mais qui, dès lors qu'elle est dans son élément, dans l'eau, est un animal magnifique, somptueux même, très habile, très agile et très beau à regarder. Et c'est cette ambivalence en fait qui est une métaphore de ce personnage qui est un monstre et qui va devoir travailler à partir de ce corps neuf qu'il n'a pas choisi pour se retrouver entier dans un autre élément qui sera l'eau, mais qui va être aussi confronté au regard des autres, un regard qui est, c'est vrai, souvent effrayé, mais qui lui doit aussi apprendre à être altéré par ce nouveau personnage qui pose des questions à chacun sur son propre corps, son rapport aux autres, l'idée de singularité, d'identité physiologique aussi, et puis la problématique des métamorphoses.
On a deviné que cette histoire se passe en France. Ce qu'il faut préciser, Valentine Gobi, c'est l'époque, c'est les années 50.
C'est vrai. Ça se passe dans les années 50 pour plusieurs raisons. D'abord parce que j'ai voulu m'attacher au balbutiement du handisport. Ça va être la voie de salut aussi de mon personnage que de découvrir non seulement l'eau, mais une nouvelle sociabilité dans cette ce balbutiement du sport pour les personnes handicapées qui commence à cette époque-là à travers des rassemblements de jeunes résistants qui souvent ont été fracassés dans les derniers mois de la guerre, mais refusent, ils sont jeunes, hein, bien souvent, refusent d'être condamnés à un corps impossible. Et donc défie ce corps, défie la vie, ont un esprit d'aventure extraordinaire. Donc ça m'intéressait de l'explorer. Ça m'intéressait aussi parce que dans ces années-là, ce qui arrive à mon personnage, qui est une mutilation très grave, qui serait aujourd'hui encore ce que les médecins appellent une maladie orpheline, c'est-à-dire très dur à compenser, à réparer pas du tout, à compenser très difficilement aussi, eh bien, se heurte, même si la médecine a fait de grands progrès avec l'appareillage aussi dans l'après-guerre, se heurte à des échecs très forts des équipes médicales, de la technique d'appareillage. Et finalement, voilà un personnage qui va devoir avant tout compter sur son imagination, les ressources de son intelligence, de la ruse, de l'observation, pour réinventer chaque geste de sa vie. Et donc, les déficiences du monde médical me permettent, moi, de faire de ce personnage vraiment un être romanesque, d'intelligence, et qui est obligé de se réinventer complètement.
Mais vous n'épargnez pas au lecteur le choc. Je veux dire, les premières pages, il est dans son ancienne vie. Il a 22 ans. Ouais. Il est robuste. C'est quelqu'un qui a un corps, parce qu'il travaille dans le bâtiment. C'est quelqu'un qui va d'ailleurs aller aider un cousin à Charleville-Mézières, et c'est là où l'accident va se produire. Qu'est-ce qui va lui arriver ?
Oui, vous le dites, il a vraiment un corps magnifique. C'est un très très beau jeune homme qui fonctionne parfaitement. Il a du sang, il a des muscles, il a de la chair. Il a choisi un métier physique, manuel. Son corps, c'est son premier outil de travail. Et on est en hiver 56, il fait très froid. Le véhicule qui l'emmène pour travailler dans une scierie va tomber en panne. Il doit demander de l'aide et va se retrouver à monter sur un wagon d'une voie désaffectée pour essayer de repérer une gare, un village. Et il va être victime de ce qu'on appelle un arc électrique.
Exactement, puisque tous les panneaux de signalisation sont recouverts par la neige.
Oui, et il faut dire aussi, puisqu'on remonte aux années 50, on est au début de la haute tension sur les lignes de chemin de fer. Il y a deux endroits en France où cette haute tension commence à être développée, c'est dans les Alpes et dans le Grand Nord. Et donc il va être victime de ce qu'on appelle un arc électrique, qui est une brûlure extrême, pas seulement de la chair, mais de l'intérieur du corps. C'est pourquoi il est considéré comme mort. Et de fait, de toute façon, il est mort tant qu'il n'a pas choisi lui-même de vivre. Parce que le chirurgien qui le ressuscite redonne des fonctions vitales à son enveloppe corporelle, mais lui se trouve prisonnier d'un corps étranger, comme Battus cloîtré dans la pierre, dans les Métamorphoses d'Ovide, ou Lycaon cloîtré dans le loup. Il va falloir qu'il épouse ce corps pour redevenir vivant. Donc il est dans les limbes.
Et en plus, on vit avec lui ce calvaire, parce que c'est un calvaire. C'est pas seulement une expérience très dure de la vie. On se rend compte, en avançant avec lui, tout ce qu'il ne peut pas faire maintenant qu'il n'a plus ses deux bras.
C'est ça, en fait, il découvre lui-même petit à petit les impossibilités totales de son corps, et il est tout à fait aux mains des autres. C'est quelqu'un dont le trajet, c'est aussi de se réapproprier son histoire. D'abord, il souffre d'une amnésie sur 6 semaines qui lui enlève la conscience de ce qui lui est arrivé, de son accident, qui lui enlève aussi son grand amour, puisqu'il n'a plus souvenir de cette femme, et il est aux mains d'un personnel extrêmement attentif qui est auprès de lui jour et nuit.
Et heureusement qu'il a une famille aussi.
Mais c'est un corps qui ne lui appartient plus, qui est aux mains des autres. Et la famille ensuite prendra le relais de ce personnel médical. C'est quelqu'un qui ne peut pas dire « je », qui est entièrement soumis à cette dépendance totale, et dont justement la trajectoire est de se réapproprier les uns après les autres chaque geste de la vie, de choisir les lieux de sa dépendance, mais de devenir, si possible et à sa façon, autonome.
Et d'exprimer cette colère, une colère que vous exprimez d'une manière très froide, Valentine Gobi, dans Muren.
C'est-à-dire qu'il est emmuré, il n'a pas tellement les moyens de se mettre en colère, cette colère est forcément intérieure. Encore une fois, il n'a pas choisi de survivre, on lui impose en fait ce corps, le seul choix qu'il peut faire désormais, c'est de mourir. Et il y a d'ailleurs un moment clé où il a la possibilité d'en finir, et en fait c'est la beauté qui le sauve, deux choses, une image magnifique, un homme dans un arbre qui décroche un cerf-volant et dont la grâce l'hypnotise, le retient au bord de ce toit dont il pourrait sauter, mais c'est surtout Nadine, qui est une infirmière extraordinaire, qui va réveiller les sensations de son corps et lui donner l'idée que peut-être, justement, il peut s'y raccorder, il peut se raccorder à cette chair étrangère. C'est un travail très patient, très long, mais qui va, je crois, vers la lumière.
Vous nous faites vivre ce moment dramatique en essayant d'éviter au maximum le pathos.
J'espère que... complètement, même, si possible.
Non, mais c'est très très dur en même temps. Et on continue à lire parce qu'on se dit qu'il va y avoir une autre vie pour cet homme. Il va y avoir une autre possibilité de trouver sa place parmi les hommes.
Oui, c'est tout le défi. Et au départ, il se trompe d'ailleurs parce que il devient donc un espèce de bricoleur génial, un inventeur fou. Il observe le monde autour de lui. Il en prend toutes les inventions pour se créer des objets qui lui permettent d'être autonome. Il utilise les ventouses qui commencent à être commercialisées. Il utilise le velcro qui vient d'être inventé. Il a une famille de couturiers qui vont pouvoir l'aider à fabriquer des objets, des vêtements adaptés.
Mais néanmoins, des corps et des silhouettes.
Oui, mais néanmoins, les gestes, manger, se laver, restent aux mains des autres. Donc, petit à petit, en fait, dans cette recherche d'autonomie, il va totalement s'isoler du reste du monde. Et ça, c'est un échec. Et c'est pourquoi, finalement, ce qui va lui permettre de véritablement entrer dans le monde, en se réinventant, en étant tout à fait quelqu'un d'autre, eh bien, ça va être la pratique du sport qui lui ouvre une sociabilité, qui lui ouvre l'idée
de rencontrer autrui. C'est le sport ou c'est le monde aquatique ?
le monde aquatique, ça n'est pas encore l'autre. Déjà, le monde aquatique, il va découvrir, donc, découvrir une première expérience dans un lac de montagne qui se renouvelle pas, mais à travers l'observation d'une murène à l'aquarium tropical de la Porte Dorée, qui date de ces années-là, qui existe toujours, mais qui montre des animaux tropicaux, il va enfin trouver une façon de se nommer. Parce que c'est quelqu'un qu'on a du mal à nommer, on a tellement de mal à imaginer à quoi il peut ressembler. Sa mère, qui est couturière, pense qu'il ressemble à un mannequin Stockman. La sœur, qui est une enfant, ne sait pas très bien à quoi le relier, elle pense à un menhir, à une souche, à une saucisse, puis finit par l'appeler Stockman aussi. Et lui, en fait, ne sait pas ce qu'il est, il n'arrive pas à se considérer entier, et un jour la vision de cette murène lui permet de se projeter dans quelque chose de vivant. Donc c'est déjà une façon d'accepter son corps, de se sentir entier
tel qu'il est. Après des moments très durs, parce qu'on vit quand même ces moments de doute, de découragement aussi.
Oui, bien sûr. C'est un miraculé. On peut très bien comprendre sa tentation d'en finir. Ce sont vraiment les autres qui vont lui donner l'idée que il peut continuer à avancer, être regardé, compter pour autrui, c'est très important. Parce que, encore une fois, la rencontre avec l'eau, elle est primordiale, mais lorsque l'eau, ça devient une piscine, et qu'autour de cette piscine, il y a d'autres personnes, et que ces autres personnes-là sont d'accord pour apprendre avec vous quelque chose qui paraît impossible, il y a évidemment la natation, mais enfin, il y a des tas d'autres activités sportives, lui choisit la natation, et que ce sont des gens aussi qui vous montrent qu'on peut en effet développer un réseau d'amitié, qu'on peut aimer, qu'on peut avoir une sexualité, qu'on peut travailler. Ça devient un sas, ça n'est pas un ghetto, cet univers du handisport. La grande solitude dans l'eau n'aurait certainement pas suffi à rattacher François Sandre à la vie. Il va falloir ce partage, cette relation aux autres, qui le fait entrer dans le collectif, en fait. Et lui donne le sentiment de participer à la vie commune. Mais c'est un très très long chemin. C'est un très long chemin.
Puisqu'on parle de cheminement, Valentine Gobi, pour Murène, c'était quoi le point de départ?
Alors en fait, ça fait très très longtemps que je travaille sur la question du corps et de ses métamorphoses. Je crois que dans tous mes romans, c'est la question primordiale. Et si vous me permettez...
Là, ce n'est pas une métamorphose volontaire, hein, en l'occurrence.
Ça l'est rarement, mais là, je ne suis pas tout à fait d'accord avec vous. Parce que vous évoquiez l'idée de résilience tout à l'heure. En physique, la résilience, c'est quand un métal qui a été impacté reprend sa forme initiale. François ne reprend pas sa forme initiale.
Mais il retrouve une place dans un monde qui...
Voilà. Il a dû réinventer tout. Chaque geste, son corps, sa vie au quotidien n'est plus comparable d'aucune façon à la personne qu'il était avant. On est dans une émission qui s'appelle Le Réveil Culturel. Le livre commence par un réveil. C'est le dernier réveil dans le corps d'avant. C'est la dernière journée dans son corps d'avant. Donc c'est pas de la résilience, c'est vraiment de la métamorphose. C'est-à-dire qu'il va s'appuyer sur cette tragédie pour devenir un autre, pour muter. Et je crois que là, il y a en François un peu de chacun de nous. Hein, c'est vraiment la condition humaine dont nous parlons. Qu'est-ce que c'est que vivre? C'est se métamorphoser sans cesse en s'appuyant sur les obstacles et les figures d'empêchement que nous n'avons pas choisis pour assumer de nous transformer grâce à eux et à elles.
Try to remember the kind of September when life was slow and oh so mellow. Try to remember the kind of September when grass was green and the grain was yellow. Try to remember the kind of September when you were young and a callow fellow. try to remember, and if you remember, then follow, follow. Try to remember when life was so tender, that no one wept except the willow. Try to remember when life was so tender, that dreams were kept beside your pillow. Try to remember when life was so tender, when love was an ember about to billow. Try to remember, and if you remember, then follow, follow.
Sur France Culture, Valentine Gobi, invitée du Réveil Culturel à l'occasion de la sortie chez Actes Sud de Muren, son dernier roman, ou comment votre personnage va se reconstruire après avoir perdu ses bras, après avoir connu d'abord un choc, hein, un accident, après avoir frôlé, un peu plus que frôlé, la mort, revenir avec un autre corps, revenir avec une autre vision de la vie aussi. Et il y a tous ces passages où il s'initie à la natation.
Oui.
Et on a l'impression que ça va pas être possible, c'est ça.
Ah oui. Alors pour ça, il faut avoir peut-être vu les Jeux paralympiques. C'est une image, moi, qui m'a frappée, qui a déclenché le roman, même si ensuite je m'en suis écartée. Mais l'image de Zheng Tao, ce champion chinois qui, dans les Jeux paralympiques de Rio en 2016, triomphe dans toutes les épreuves. Il a pas de bras.
Oui.
Et il nage magnifiquement sous l'eau et il bondit hors de l'eau, il jaillit comme une balise avec une puissance incroyable. Et donc on sait que c'est possible, mais vous avez raison, ce qui est très intéressant, c'est qu'à l'époque, ils ne savent pas que c'est possible. Et cet esprit d'aventure, cette foi en une chose que nous-mêmes, nous n'aurions pas cru possible, elle est très belle. C'est-à-dire que tout est invention. Quand cet homme rentre dans une piscine municipale pour la première fois, faut déjà savoir que les gens savent pas beaucoup nager dans les années 50. La piscine municipale, c'est pas un lieu où on va régulièrement,
non plus,
pas du tout.
Dans son ancienne vie non plus, ouais.
Et en plus, il y entre sans bras, ce qui terrifie totalement le maître nageur qui le voit arriver et qui a très très peur, en fait, de la responsabilité soudain qui lui incombe. Et en fait, cette apprentissage, évidemment, il y a toute la symbolique de l'eau qui est une matrice. C'est pas très original, mais c'est vrai. Je veux dire, il y a quelque chose de l'ordre d'une plénitude, d'un sentiment de plénitude qui est très profond parce que l'eau, c'est ce qui pallie au manque. En fait, il n'y a pas d'air, il n'y a pas de trou. On est dans un milieu qui épouse totalement le corps. Il n'y a même plus d'espace, d'ailleurs, entre les genoux, les chevilles. Tout est un tissu plein, en fait. Et cette sensation-là, c'est la sensation pour lui d'être entier. D'ailleurs, très vite, il imagine
que sur Terre, c'est un handicap, hein. Il n'y a pas, ne plus avoir de bras, c'est ne plus avoir d'équilibre, ne plus pouvoir toucher,
oui.
Ne pas pouvoir
oui.
Avancer.
Oui. Et du coup, ça incarne complètement ce passage, et c'est ce que m'avait suggéré très très fortement ce Zheng Tao qui jaillissait de l'eau comme ça, magnifique, c'est le passage de l'idée de manque et de déficience à l'idée d'accomplissement et de performance. C'est tout le chemin que va parcourir François, que nous parcourons tous d'une manière ou d'une autre. Nous aussi, on est plein de manques, plein d'excès. Nous aussi, nous sommes dans la démesure ou dans la béance. Mais voilà, lui va trouver dans l'eau un lieu dans lequel il est plein et qui va très vite, d'ailleurs, lui suggérer l'idée qu'une femme doit avoir cette forme-là quelque part.
Alors,
et donc, c'est le début de la sensualité aussi pour lui. C'est plus que la nage et la réappropriation du corps, c'est vraiment la sensualité, c'est l'accès à nouveau à la sensation douce.
Vous disiez, Valentine Gobi, que le fait de voir à la télévision les compétitions d'handisport, je suppose que vous parlez des Jeux Olympiques...
Les Jeux Paralympiques de Rio, c'était...
Oui. Ouais. Est-ce que vous avez aussi questionné votre regard, pourquoi on voit ces images?
Ah bah évidemment, je me suis d'abord rendu compte que j'y connaissais pas grand chose. C'était probablement la première fois en fait que je voyais des images vraiment en continu des Jeux paralympiques, qui étaient d'autant plus impressionnantes qu'on parle pas des épreuves d'athlétisme, on parle des épreuves de natation. Les corps sont nus, ils ne sont pas appareillés, ils sont tous exposés dans leur grande diversité. Quelque part, ça incarne de manière radicale la singularité de l'être humain, du corps humain. Qui est là extrême, mais qui est la nôtre aussi, cette grande diversité des êtres humains. Et évidemment, les premiers Jeux paralympiques dans les années 60 ne médiatisent pas du tout le corps de la même façon. D'ailleurs, il est très peu médiatisé, le corps, à ce moment-là. Et on entend beaucoup parler de médecins, de prolongement de la rééducation, d'idées que le sport est une façon d'aider les personnes handicapées à résoudre leurs problèmes urinaires. À l'époque, les gens sont en fauteuil roulant, donc ce sont des handicaps assez particuliers. Les personnes amputées n'arrivent dans les Jeux paralympiques que dans les années 70. Avant, c'est vraiment les personnes en fauteuil. Et donc, on appelle ça les Jeux du courage. Il faut entendre Léon Zitrone louer ces handicapés courageux qui arrivent à vaincre les obstacles imposés à leur corps. Ce qui est très beau aujourd'hui, même si malheureusement les gradins sont toujours pas pleins, c'est que on commence à voir des athlètes avant toute chose. C'est-à-dire des êtres entiers.
Bien sûr, et on commence à voir ces Jeux paralympiques à la télévision.
Alors c'est le deuxième événement le plus médiatisé au monde.
Et Depuis peu.
Et c'est aussi ce parcours que j'essaye d'illustrer dans mon livre, c'est comment on est passé à une forme de normalisation. Ces gens-là eux-mêmes avaient un peu peur du ghetto dans les années 50, quand François débarque dans cette piscine et qu'il voit tous ces corps qui lui apparaissent comme extrêmement laids. Finalement, il se révolte, il trouve ça tout à fait injuste d'être obligé de fréquenter des gens aussi laids, parce qu'en fait, il peut pas se mêler aux valides. Et au départ, il a cette grande peur du ghetto, il a honte de se trouver là, et puis il va se rendre compte, d'abord, il y a une place, et c'est bon aussi de pouvoir être regardé sans tricher, mais finalement c'est un sas vers le monde extérieur. Il y a la même diversité dans cet univers-là que dans le monde extérieur, simplement on est à des extrémités qui sont plus visibles. Et donc ce monde du handisport va s'ouvrir peu à peu vers l'univers des valides. Et pourquoi je termine le livre sur les Jeux de Tokyo de 1964, c'est parce que 1960 c'est la première fois, on pourrait croire que c'est une espèce d'exception, on fait plaisir aux personnes handicapées puis on n'en entendra plus parler, et à partir de 64 on sait qu'un rendez-vous va être pris tous les 4 ans et que, quelque part, ils rejoignent une pratique ordinaire, cette normalisation et, je crois, une quête.
Vous, avant d'écrire ce roman, Valentine Gobi, vous avez enquêté. Il y a toute une page, un peu plus d'une page de remerciements. Sur quoi vous avez travaillé précisément? Est-ce que c'est plus avec les médecins, avec les psychologues ou beaucoup plus sur cette période-là, et quel regard on portait sur les handicapés dans les années 50?
Surtout ça à la fois, parce que les balbutiements du handisport sont très mal connus, donc il faut vraiment se documenter énormément, alors en bibliothèque bien sûr, essayer de trouver des personnes aussi qui ont traversé cette période-là, c'est pas simple. Ils n'avaient pas conscience qu'ils deviendraient des héros de l'histoire, donc ils sont bien cachés, ces gens, et les archives sont finalement peu nombreuses. J'ai beaucoup travaillé avec des équipes de médecins, bien sûr, et j'ai été accueillie formidablement par l'hôpital d'instruction des armées de Percy, sachant que finalement la blessure de mon personnage correspond à une blessure de type de guerre, donc c'est un hôpital militaire qui m'a accueillie avec le service des grands brûlés, de rééducation fonctionnelle. Évidemment, j'ai travaillé sur le handisport. J'ai été accueillie à la Fédération Handisport, j'ai rencontré directeur national de natation, j'ai rencontré des athlètes âgés aujourd'hui qui ont connu une autre époque du handisport, mais aussi des athlètes récents qui sont vraiment des gens qui n'ont pas du tout peur de l'idée de performance, justement, et qui sont des héros dans leur domaine, alors que François, lui, va choisir le sport comme une façon de retrouver une place dans le monde et pas forcément comme un but en soi, mais il y a y a tout à fait différentes façons de s'intéresser au handisport, comme au sport en général. Donc tout ça, c'est des milieux qui sont très différents, qui m'ont toujours beaucoup bien, enfin vraiment bien accueilli. Et je pensais pas passer autant de temps à l'hôpital, ça fait finalement plus de la moitié de mon livre, cet univers-là, parce que j'imaginais que, comme aujourd'hui, des blessés aussi sérieux étaient plongés dans le coma. Or, c'est une pratique récente, et il a fallu que mon personnage traverse en conscience tout ce moment, en fait, de l'hôpital qui dure des mois. Et donc, j'ai découvert un univers que je soupçonnais pas devoir visiter, c'était passionnant.
Le réveil culturel de Topika Kem est à retrouver sur franceculture.fr.
Muren, le dernier roman de Valentine Gobi, est édité chez Actes Sud. Merci beaucoup d'être passé ce matin à nous en parler.
Merci de m'avoir reçu.
Et bonne journée sur France Culture, on se retrouve demain à la même heure.